Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Fin de journée, discret dérapage contrôlé. Mon freinage laisse une trace noire sur le béton défoncé du trottoir. Je fais cliqueter mon antivol, pousse la porte et monte les escaliers. Je pose les salades sur la table de la cuisine et jette un coup d'œil à l'horloge. 15 minutes avant 17h, j'ai encore un peu de temps. Je gravis tranquillement les marches jusqu'au dernier étage. Les loupiottes indiquent 35% de charge sur les batteries. Pas pire. Entre 17 et 21h, coordination des montres. On allume le réseau, et c'est le cas dans à peu près toute la ville et d'autres régions autonomes. Pendant ces quelques heures, les messages écrits dans la journée cherchent à se rapprocher de leur destinataire, les forums se resynchronisent, les copies des bases de données importantes sont mises à jour. Les opératrices n'ont eu qu'à ressortir des tiroirs cet Internet des débuts aux liaisons intermittentes, avec quelques bricolages supplémentaires. L'augmentation de la puissance des puces sur la dernière décennie de l'antémonde a quand même rendu les choses plus faciles et économise pas mal d'énergie. Je suis inscrit pour le tour de pédale de 17 à 19h du mardi. Pédaler reste un moyen simple pour alimenter l'électronique. Lorsque les trois vélos sont occupés, on arrive même à recharger la batterie générale. J'enjambe le cadre, lance « Hey Boy, Hey Girl » des Chemical Brothers et commence à pédaler au rythme des sons synthétiques.
Hey girls, boys, superstar DJs, here we go!
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 ou Dragon 104.4 et 96.8 pour un nouvel épisode de Vortex et Rotative.
On vient d'entendre un extrait du livre dont on va vous parler aujourd'hui.
C'est Bâtir aussi, écrit collectivement par les ateliers de l'Antémonde et publié aux éditions Cambourakis en 2018. Bâtir aussi, c'est un recueil composé de 7 nouvelles d'anticipation politique qui se passent toutes dans le même univers. En fait, une révolution quasi-mondiale a eu lieu à partir de 2011, partant des révolutions qui ont été nommées les printemps arabes. Et à partir de là, les mouvements se sont étendus au monde entier, hormis quelques enclaves capitalistes. À partir de là, c'est la fin de l'antémonde et le début de l'Araka. Les 7 nouvelles se passent pour la plupart 10 ans après la révolution. Les histoires se déroulent à Bordeaux, Lyon, Genève ou encore dans le Vercors. On y suit des bouts de vie de différentes personnes, très ancrées dans le quotidien et la réalité matérielle. Et c'est aussi à travers ce quotidien qu'on en apprend plus sur l'histoire récente, la révolution, les changements sociaux. Ces récits du quotidien sont aussi un moyen de décrire les désaccords et les enjeux des personnes. Pour ou contre développer la production d'électricité, par exemple, pour avoir des machines à laver. Quoi faire des armes? Comment désarmer la société? Et que faire avec les personnes qui ne veulent pas de ces changements sociaux? Comment s'organiser dans les tâches quotidiennes? Et comment continuer les luttes pour le partage des tâches, contre les rapports de genre et le sexisme? Comment continuer à produire des vélos? Faut-il chercher le productivisme ou l'agrandissement des usines? Et quid de l'exploitation animale et du véganisme? Comment se déplacer loin? Comment envoyer des courriers? Que faire des envies de développement, de recherche, de progrès? Globalement, comment concilier des envies, des convictions et des perspectives différentes? Et finalement, une des questions qui revient tout au long du livre, c'est « Mais qu'est-ce qu'on veut garder de l'antémonde et qu'est-ce qu'on ne veut plus? Avec quoi veut-on faire rupture et qu'est-ce qu'on veut perpétuer ?»
La situation de Nesrine et de ses copines me ramène aux prises de bec du début de l'Araka. Le concept « Lave ton linge 2.0 » avait été lancé dès 2012. À l'époque, la reprise des laveries automatiques s'était faite comme un mouvement concerté dans de nombreuses villes en quelques mois. L'idée venait à la base de collectifs féministes de Bombay ou de Calcutta, je ne sais plus exactement. Ça s'était répandu comme une traînée de poudre en Catalogne et dans le Piémont. On avait décidé de suivre le mouvement ici aussi, en Rhône-Alpes. Dans les assemblées, beaucoup s'étaient moqués de nous. Introduire la convivialité et les réunions dans les placards à balais, encore une idée tordue de ces sales féministes. Sceptiques et réactionnaires nous avaient traités d'adeptes de la Javel, de croisés de la machine à laver et d'autres bouffes savants. Une grande vague de contestation contre le délire théorie-vaisselle. À mon avis, il trouvait dégradant d'associer les tâches basiques de la vie quotidienne à la noblesse de l'élan collectif révolutionnaire. Comme si leur amour-propre était blessé par ce rappel bassement matériel, ou qu'ils craignaient le début d'une ère où les tâches ménagères seraient l'affaire de tous, ce qui était bien notre intention. Mais bien sûr, ils n'auraient jamais reconnu aussi ouvertement leur aversion pour ces corvées dites féminines, et leurs arguments fusaient dans des sphères nettement plus politiques. La machine à laver était le symbole odieux de l'antémonde. Non pas un simple objet technique, mais l'ultime appendice du vieux système, qui démarrait dans les mines d'aluminium et aboutissait aux raffineries d'uranium. Il était simplement impossible d'appuyer sur le bouton « programme laine » ou « essorage à 700 tours » sans considérer l'avalanche d'exploitation et d'aliénation associées. Et si les machines à laver avaient spécialement libéré les femmes du lavoir quelques décennies plus tôt, ce n'était qu'une preuve de plus que les féministes étaient des vendus, suppôts du capitalisme. Les engueulades s'étaient alors enchaînées sur ce qui aliénait qui, avant et maintenant, et sur l'idiotie de confiner les objets rescapés de l'antémonde sur un terrain vague entouré de barbelés, comme s'ils étaient maudits et allaient nous contaminer. D'insultes en sarcasme, le débat s'était effiloché de lui-même, laissant au final le pragmatisme reprendre le dessus. Des collectifs hétéroclites se formaient pour remettre en marche tout un ensemble de machines, et bien sûr, des machines à laver le linge.
Bâtir aussi est le résultat d'un processus d'écriture collective sur 7 ans par les ateliers de l'Antémonde. Dans leurs propres mots,
les ateliers de l'Antémonde sont constitués de personnes engagées dans des luttes anticapitalistes et féministes, des ateliers de fabrication d'imaginaires enthousiastes et critiques du complexe techno-industriel. Ensemble, Yel tente de tirer les fils du présent afin de tendre une toile de futur possible, voire souhaitable.
À l'origine de ce processus se trouve un projet de réédition d'un texte de l'anarchiste écologiste US-américain Murray Bookchin, publié en 1965, qui décrit une société autogestionnaire, écologique et post-capitaliste, qui détaille quelques-unes des solutions matérielles que les communes autonomes qu'ils imaginent ont alors mises en place. À la fois enthousiaste de la démarche de Bookchin, mais plus que critique sur certains de ses choix, il va jusqu'à imaginer des microcentrales nucléaires quand même, le groupe laisse tomber l'idée initiale et se lance à son tour dans cet exercice d'imaginer l'émergence d'une société plus juste et plus désirable sur les ruines du capitalisme industriel.
La première impulsion de Bookchin dans son livre « Vers une technologie libératrice » est de partager une énergie, une passion de la bidouille des chantiers et des métiers manuels en général. C'est la recherche théorique et l'invention du concret. Expérimenter, rencontrer de sérieux problèmes de résistance et d'équilibre et trouver des solutions pour que ça tienne. Cette manière de faire de la théorie politique en se frottant à la matérialité du quotidien, de nos besoins intimes et contradictoires, nous parle énormément.
Yel finissent par publier « Bâtir aussi » en 2018 sous licence Creative Commons, en version papier chez Kambourakis et en e-book ou à lire en ligne sur le site antemonde.org. Les textes sont entièrement écrits de manière inclusive, c'est-à-dire que ce n'est pas le masculin qui l'emporte. Les noms sont ponctués de E majuscule et le pronom à la troisième personne est IL pour, selon les auteurices,
appuyer une visibilité féministe et favoriser une multiplicité des genres au sein des situations et des personnages.
Une fois sorti, le livre devient le point de départ d'une tournée d'ateliers de discussion en France, en Suisse et en Belgique. Dans ces labo-fictions, les participantes sont invitées à imaginer à leur tour des bouts de ce monde 10 ans après une révolution anti-autoritaire victorieuse, à partir de leurs propres expériences, connaissances, envies et savoir-faire.
Cette démarche collective nous ressemblait parce que nous étions portés depuis des années par des collectifs anti-autoritaires où nous cherchions l'horizontalité dans les relations et les tâches, dans la circulation des pensées. Nous espérions que chacun chacune y trouve sa place, plutôt que de valoriser quelques rares personnalités. Partant de là, porter ce nom collectif, les ateliers de l'Antémonde, c'était se mettre en retrait en tant qu'auteurice pour inviter d'autres personnes à peupler à leur tour l'Araka.
Sur le site antemonde.org, on trouve aussi un texte de bilan qui raconte des bouts de cette tournée, des idées sorties des ateliers pour prolonger les récits du livre et des réflexions sur leur démarche politique. Il est un peu longuet, mais ça vaut le coup parce qu'il permet vraiment de mieux comprendre l'idée derrière les ateliers de l'Antémonde. D'autres groupes se sont emparés également des textes pour créer une adaptation radiophonique qu'on peut écouter et ou télécharger aussi sur antimonde.org.
Ce livre qu'on vous présente aujourd'hui, « Bâtir aussi », écrit par les ateliers de l'Antémonde, est dédié à Ursula K. Le Guin,
qui nous a ouvert la voie des utopies ambiguës.
Bon, et ça, c'est un des trucs que je trouve vraiment intéressant. À la fois, ces nouvelles décrivent un futur désirable, un futur sans capitalisme, sans exploitation. Et en même temps, tout n'est pas réglé. Tout n'est pas si simple ni évident. Il y a toujours des rapports de domination ou de pouvoir entre les individus. Il y a des désaccords, il y a des crises, il y a des engueulades, des conflits, des tensions. Et les autoristes du livre décrivent cet univers comme une utopie merdique.
Il ne s'agissait pas de créer une utopie hors sol, un monde idéal et sans problème. Car si tout était lisse, sans grassement ni désaccord, ce serait louche, probablement autoritaire. Un monde parfait serait à l'opposé de ce que nous imaginions comme une vie bonne, une vie avec ses problèmes qu'on ne peut pas toujours résoudre, ses injustices et ses chaos incompressibles, mais qu'à force de tendresse, d'inventivité et d'obstination collective, nous parviendrions à rendre vivable et enviable. Une utopie bourrée d'ambiguïté, selon les termes de l'autrice de science-fiction Ursula Le Guin. Une utopie merdique, comme nous avions fini par la nommer nous-mêmes. Partir de ce qui nous semblait souhaitable, s'autoriser à penser que ça pourrait advenir, puis étoffer ce qui se passerait entre-temps pour que cela advienne. Et dans cet aller-retour entre présent antérieur et futur proche, s'autoriser les points de résistance, les rapports de domination et les violences, bref, les chaos merdiques dont est tissé le quotidien, mais sans jamais perdre de vue que, globalement, ça commencerait à aller mieux. On a mis en scène nos désaccords au lieu de les résorber, alors que dans la société, il y a toujours un enjeu à convaincre, se positionner pour ou contre. On montre que l'on cohabite toujours avec l'incohérence, c'est la liberté laissée par la fiction.
Au final, les histoires sont très réalistes. Même si le monde évolue, et évolue dans le bon sens, on ne tombe pas non plus dans de la mièvrerie utopique d'un monde sans domination ni désaccord. Et je trouve que ça vient appuyer sur l'idée qu'il n'y a pas de monde idéal, que les réalités sont complexes et que tout le monde ne peut pas tomber d'accord sur tout. Même si beaucoup de personnages ont des perspectives communes, par exemple des positions anticapitalistes ou antipatriarcales, ça ne fait pas pour autant qu'elles sont d'accord sur d'autres sujets. Et les nouvelles sont pleines de dialogues qui vont de la discussion très quotidienne au débat d'idées, en passant par le partage d'affection.
Ce matin, sous ma couette, j'étais démotivée d'avance. Trop de réunions tuent la réunion. Nos manières de nous enfermer dans des processus laborieux commencent à me fatiguer. La réunion de ce soir doit se passer à la cave, comme d'habitude. La cave, c'est la salle de l'union de quartier. Elle est tout en haut de la butte, mais c'est une vraie cave. Poussiéreuse, humide et sombre. Les discussions s'annoncent encore une fois difficiles. Nous sommes en grand débat à propos du fleuve. Le collectif s'est monté pour aménager des rizières le long de la rive ouest de la Garonne, sur une bande de presque 4 km en partant de l'îlot des Lapins et en longeant la Saudrune. L'emplacement semble idéal, autant pour l'exposition que pour les possibilités d'irrigation. Mais ça fait plus de 10 mois qu'on en discute, car bien sûr rien n'est simple. D'abord, une bonne centaine de personnes vivent là, dans un village de cabanes super sympa, le quartier forêt qui commence tout juste à trouver sa routine. Les négociations entre habitantes vont bon train, pour ou contre leur déménagement. En parallèle, il y a les analyses de sol, et ça non plus, ça n'est pas gagné. On vient de découvrir que le terrain en surplomb avait abrité l'usine chimique Atofina Total. Ce truc a carburé pendant près d'un siècle et jusqu'au début 2000, mais ça, personne ne s'en souvenait. Et paf, après des mois de discussions sur la beauté du quartier forêt, il suffit de quelques prélèvements pour faire descendre la polémique plus bas que terre. La pollution est massive sur les deux parcelles déjà libres, et je n'ose pas imaginer ce qui se cache sous les nouvelles cabanes. Ça ne tiendrait qu'à moi, j'organiserais l'évacuation immédiate de la zone. Mais bien sûr, les habitantes qui ont fait de cette friche un petit paradis ne l'entendent pas de cette oreille. Et même si le quartier forêt acceptait de migrer à l'autre bout de la ville, nous ne savons pas s'il est possible d'assainir suffisamment ce merdier pour y planifier des cultures. On entend parler de dépollution végétale un peu partout, mais pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu un débat de 3 heures, pour finalement reconnaître que personne ici n'avait de vraies compétences sur les pollutions pétrochimiques. Dans l'assemblée, il n'y avait qu'un seul agrobiochimiste. Jeune papa depuis quelques jours est visiblement débordé par les couches et une coparentalité mouvementée au sein de son collectif. Alors de là à reconstituer un humus correct et à produire notre riz, on a une sacrée marge.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8 avec Vortex et Rotative. Aujourd'hui, sur le recueil de nouvelles Bâtir aussi, écrit par les ateliers de l'Antémonde.
Par-dessus tout, je suis heureuse que le lave-linge reste le symbole de la vie moderne émancipée des corvées. Non pas que je veuille mettre de côté la critique de la technique, mais il est tellement horripilant de voir ce romantisme naturalisant sortir de terre. Des mecs brandissant le cliché des femmes réunies dans la joie et la complicité du lavoir, leurs bruyants appels à nous purifier de l'industrie. Je frissonne de nouveau à ces idées nauséabondes, cette célébration de nos origines supposées, ce délire de l'harmonie homme-femme-nature comme un bon sens au service des inégalités.
Ce qui est vraiment très beau dans Bâtir aussi, c'est la diversité des personnages en termes d'identité, de genre, d'âge, d'origine sociale, qui fait que les histoires sont souvent racontées depuis des points de vue minorisés ou du moins pas habituels dans la littérature mainstream. La forgeronne lesbienne septuagénaire et son apprenti PD de 17 ans. Le personnage trans issu d'une famille riche et les ados adeptes de l'aviation. La plombière féministe et le geek mal compris. Cette multiplicité des points de vue donne lieu à de nombreux échanges sur les dominations structurelles, telles que l'organisation patriarcale et sexiste des tâches ou l'hétéronormativité. Et ces discussions se passent toujours dans un contexte concret, ce qui permet de plus facilement comprendre ce que signifie « structurel », comment cela s'insère dans les interactions et le quotidien, les structures du quotidien. Et ça marche assez bien de faire coexister des contextes où, par exemple, l'hétérosexualité n'est pas la norme, et d'autres où des femmes doivent lutter contre les attentes des hommes pour qui c'est évident qu'elles se chargeront de la bouffe et du linge. Les différences d'âge donnent à leur tour lieu à des discussions pas toujours posées entre des personnes qui ont connu le système capitaliste d'avant et d'autres pour qui la raca est la normalité, puisqu'elles étaient trop jeunes pour avoir vécu vraiment consciemment l'antémonde. On sent aussi une vraie volonté de la part des auteurs de questionner les représentations racistes, mais ça me semble un petit peu moins réussi. Ça se joue surtout dans le choix de ne pas que donner des prénoms franchouillards aux nombreux personnages mentionnés, dans les références régulières aux influences révolutionnaires venant du Maghreb, du Moyen-Orient ou de l'Inde, et dans certains personnages plus étoffés comme l'étudiant ex-sans-papiers issu d'une famille communiste tunisienne ou la meuf musulmane qui a su accepter les nouveaux rituels inventés par les Araques grâce à sa foi musulmane et qui veut casser le mythe du dieu seul et unique pour inventer un polythéisme révolutionnaire. Bon, voilà, ce dernier personnage ne m'a pas complètement convaincu, mais c'est possiblement aussi dû au fait que la nouvelle en question est celle qui fonctionne le moins bien pour moi, peut-être aussi parce qu'elle contient surtout des dialogues et descriptions et quasi pas d'action.
Face à l'hostilité ambiante, leurs dissensions internes avaient été reléguées au passé en un rien de temps. Toutes les hippies, paysans-paysannes, gauchistes, communistes, anarchistes du coin s'étaient mises à flipper de la place qui elles prenaient, sans parler de leur look et de leurs idées tordues. Cette belle communauté, en théorie ouverte sur l'homosexualité et les transidentités, avait d'abord trouvé dégueulasse et bruyante la bande de féministes mal baisées qui débarquaient. Comme le nombre fait la force, les nouveaux nouvelles arrivantes s'en étaient foutues, c'était leur problème d'hétérosexuels coincés. Et Yel s'était entièrement consacrée, en bonne bricoleuse, à cette idée de construire une manufacture de cycles. Les vélos, denrées rares et précieuses puisqu'ils étaient devenus la première source d'énergie et de déplacement. Même si le gros de l'activité se concentrait sur les vélos, dès le début, Yel avait proposé d'ouvrir un atelier de réparation de mécaniques simples et petits électroniques. Râpe à légumes, moulin à café, presse purée, station d'aiguisage, machine à coudre, perceuse, pétrin, meuleuse et autres coupe-friture. Banco. Tout le monde avait accroché et les liens s'étaient faits, les mains dans le cambouis, par petites touches.
Il va jusqu'où votre délire ? Quand vous aurez un avion qui tiendra la route, vous voudrez en fabriquer 10, puis 100. Vous les produirez à la chaîne. Vous remettrez en route les raffineries, l'aluminium ou les centrales nucléaires. Vous délirez avec vos idées géniales sans penser aux conséquences. Occupez-vous plutôt des déchets que Lanthémande nous a laissés sur les bras. Les trois jeunes fulminent plus rouges que leur combinaison. Axel, celui dont le visage est de loin le plus congestionné, réplique. Lanthémande par-ci, Lanthémande par-là, vous n'avez que ce mot à la bouche. Nous ne l'avons presque pas connu, votre Lanthémande. Par contre, le froid, le manque de nourriture, le chaos et la guerre, ça, on a bien enduré. Nous voulons contribuer à améliorer le monde dans lequel nous vivons comme chaque personne ici. Multiplier les liens avec les autres régions, c'est un vrai besoin. Et nous avons cette possibilité géniale qu'est le transport aérien. Nous voulons avancer et non régresser. Nesrine persiste. Mais avancer toujours plus, c'est à la base du capitalisme. On n'a pas fait un trait sur tout ça pour y revenir 6 mois plus tard. Mais c'est quoi le capitalisme? À chaque fois qu'un truc ne vous plaît pas, vous dites que c'est capitaliste. C'est complètement nul comme argument, ça me saoule à la fin.
La question des technologies est centrale dans quasi toutes les nouvelles. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'une critique de telle ou telle technologie, mais bien d'un questionnement d'une logique plus large qui guide les choix d'une société pour ou contre des technologies spécifiques. C'est ainsi que les autrices l'expliquent dans la postface du livre.
Impossible de réfléchir à notre rapport à la technologie et aux technologies sans penser le monde qui va avec. Cette réflexion nous plonge dans un mouvement d'aller-retour permanent entre la façon dont les technologies sont conditionnées par le monde qui les produit et, inversement, comment elles structurent le monde dans lequel elles se déploient. L'un ne préexiste pas spécialement à l'autre. Société et développement technique nous semblent interdépendants.
Concrètement, ça veut dire mettre en balance les besoins et envies avec ce qui est nécessaire pour pouvoir faire exister une technique ou une technologie en termes de matériaux, de pollution, mais aussi d'investissement humain, de travail, de santé, de qualité de vie. Selon les contextes, ce n'est pas la même réponse. Si le livre est bien marqué par un parti pris contre la logique d'un capitalisme industriel, il ne propose pas pour autant une liste claire de ce qui serait à garder ou à jeter. Il ouvre plutôt le débat. Les dialogues sont parfois un peu surjoués ou très démonstratifs, mais ils visibilisent très bien les complexités et les enjeux qui traversent une société.
Vous avez investi les 2 autres ateliers derrière? Pourquoi faire? On a assez de boulot comme ça. Ce serait le moment de relancer les fourneaux de ces salles-là, non? Vous changeriez radicalement d'échelle. Martha, la fonderie a multiplié par 7 sa production en 2 ans. C'est amplement suffisant. Retaper les fourneaux existants serait plus simple que d'en construire d'autres, non? Mais on n'a pas besoin d'en construire d'autres ailleurs. Ça vous permettrait de vous spécialiser dans la production de métal, quitte à réinstaller l'usine de Vela dans un autre bled. Martha, tu étais là avec nous. Tu sais bien qu'on a tout lancé de zéro. On a augmenté la production de manière quasi constante et on est perpétuellement limite en main-d'œuvre. Théo ouvre les bras, agacé lui aussi. Et qui voudrait travailler ici tous les jours? Toi peut-être? Théo parle rarement fort, mais il faut bien couvrir le ronflement des fourneaux. Jeanne n'ajoute rien, Martha sourit l'air narquois, ce qui finit d'énerver le garçon. On ne va pas s'auto-exploiter pour accéder au paradis des révolutionnaires. Toute la région nous sollicite, mais on ne peut pas suivre, et c'est très bien comme ça. Dis quelque chose, Gigi. Mais c'est Martha qui réplique, visiblement satisfaite de les provoquer. Il me semble qu'il y a des besoins et qu'on a le devoir d'en fournir un minimum, non? Un minimum? Mugit Théo. Dis plutôt un maximum. Gigi, elle m'énerve là. Je n'ai pas envie de faire du monotage toute ma vie pour contenter les théoriciennes de la Révolution. Elle n'arrête pas de dire bande de petits joueurs, bande de feignants. Je dis juste que vous pourriez avoir un peu d'ambition, chicane Martha. La relance de la manuf, ça demandait de la folie. Si on n'avait pas rêvé un minimum, on tournerait toujours avec 4 petites forges de rien et 10 clés à molette. Mais retourne-y dans tes rêves, parce que nous, avec 10 clés à molette, on s'en sort très bien. Tu veux augmenter la production? Mais pourquoi? Pour aller à l'autre bout de la planète quand ça te chante? À quoi bon voyager vite et loin? Vite et loin? Relève Jeanne en rigolant. On construit des Vélas, pas des jets supersoniques quand même. Il me semble qu'il nous reste un peu de marge. Vous me dégoûtez avec vos délires antémondistes, fulmine Théo. Moi, je suis allée 3 fois à Toulouse dans toute ma vie et je me porte parfaitement bien. Martha, tu devrais avoir honte de traverser l'Europe depuis le centre de l'Espagne juste pour le plaisir. Gigi, dis-lui que ça craint. Merde, j'ai l'impression d'être face à mon grand-père au même âge que toi, là, Et d'abord, la Comunitat Valenciana n'est pas au centre de l'Espagne, mais sur la côte méditerranée. Je m'en fous de tes précisions géographiques, je n'irai jamais dans tes contrées, c'est trop loin pour les humains. Jeanne fixe Théo interdite. Elle ne lui connaissait pas cette ferveur anti-déplacement. Martha poursuit sur un ton semi-scandalisé, semi-amusé. Je voyage si je veux. Mince, tu es déjà si coincé à ton âge. Voyager, c'est grisant, ça renforce, et ça donne du recul sur ce qu'on fait. Et se tournant vers Jeanne. Qu'est-ce qu'on a foutu, Gigi? On leur a tellement bourré le crâne aux jeunes qui, elles, sont prêtes à retourner à l'âge de pierre. C'est flippant, hein? Mais profite donc de ta jeunesse, Théo. Il a les larmes aux yeux. Jeanne le regarde avec affection et perplexité. L'Araca a effectivement donné naissance à une génération de primitivistes exemplaires.
Et pour finir, on va écouter un extrait du bilan de la tournée des ateliers de l'Antémonde, qui résume assez bien un autre aspect qui nous a fait apprécier ce livre.
Nous voulions creuser du côté du désirable, parce que nous étions fatigués des scénarios d'horreur, ce qu'on appelle, par opposition aux utopies, des dystopies. Envisager en permanence le pire permet aux puissants d'imposer des conditions de vie et de travail toujours plus pénibles. La peur du lendemain pour nous résigner à un présent lamentable. La haine de l'autre et la fabrication d'une guerre entre pauvres pour diviser et isoler, pour désamorcer tout désir commun qui contesterait l'ordre des puissants. Caméra à chaque coin de rue et rejet des différences. Peur de perdre son travail, sa retraite, sa dignité. Angoisse du cancer, du terrorisme, du climat, des psychopathes et de tous les monstres. Nous voulions prendre le contre-pied de la peur et imaginer nos vies belles et collectives. Nous faisions le pari que s'approprier des imaginaires positifs fracturerait cette dynamique d'individualisation et d'asservissement.
Et pour glisser une toute dernière remarque critique, dans la postface et le bilan des ateliers, les autoristes font régulièrement référence à ces mouvements de 2011, appelés souvent les printemps arabes, qui ont servi comme point de départ au récit uchronique de ces nouvelles. Et je trouve que ça aurait mérité de mentionner en une phrase que dans notre réalité, ces mouvements n'ont pas eu forcément des fins aussi heureuses et que pour une partie des personnes impliquées dans ces luttes, ça a tourné à la catastrophe, avec des retours de bâton terribles comme c'est le cas en Égypte par exemple, où des milliers de personnes croupissent dans les prisons.
Voilà, dans ce troisième épisode de Vortex et Rotative, on vous a présenté le recueil de nouvelles d'anticipation, Bâtir aussi, qui a été écrit à plusieurs mains par les ateliers de l'Antémonde. Il a été publié aux éditions Kombourakis dans la collection Sorcières, et on peut maintenant le trouver au format poche.
Cependant, si vous le cherchez, il faut savoir que la collection Sorcières étant habituellement dédiée aux essais plutôt sociologiques, on trouve souvent Bâtir aussi rangé dans ses rayons de sociaux plutôt que dans les rayons dédiés aux littératures de l'imaginaire. Bref, il faut parfois chercher sa couverture jaune vif.
Sinon, vous trouvez tous les textes et aussi le bilan de la tournée d'atelier sur le site antemonde.org. L'émission est montée avec des bouts de musique des Chemical Brothers et de Nils Fram.
En écoutant cette émission via Radio Campus Grenoble, n'hésitez pas à vous rendre sur le site campusgrenoble.org pour remplir le sondage qui permettra à la radio de mieux comprendre comment Campus Grenoble est écouté et par qui.
Au revoir.
Au revoir et au mois prochain.
Vortex et Rotative. sur Radio Dragon et Campus Grenoble.